Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
Environ 3000 ménages des retournés en situation difficile à Nobili et Kamango, Nord Kivu. Ils se retrouvent sans abri et sans nourriture à leur retour de l'Ouganda où ils avaient fui les attaques des ADF. La société civile plaide pour des actions humanitaires urgentes en faveur de ces personnes. Situation des ressortissants de la RDC en Ukraine. Les démarches se poursuivent pour rapatrier ou prendre en charge les étudiants congolais qui se retrouvent en Pologne. C'est ce qu'indique le ministère des Affaires sociales, Solidarité et Action humanitaire, dont le directeur de cabinet a fait le déplacement de la Pologne. Vous entendrez Hubert Tetika. Et puis, l'invité de ce midi, Sheila Romaine, coordonnatrice au Kasaï du bureau de terrain du coordonnateur humanitaire en RDC. Elle évalue ici l'approche Nexus mise en marche dans la région du Kasaï après le départ de la MONUSCO l'année dernière. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Plusieurs habitants de Nobili et Kamango, dans le territoire de Beni, vivent dans des conditions inhumaines depuis leur retour de l'Ouganda, où ils avaient fui les attaques des ADF. Des sources de la société civile locale indiquent que des organisations de défense des droits de l'homme rapportent qu'environ 3000 ménages des retournés sont sans abri et manquent de nourriture et médicaments. La société civile plaide pour des actions humanitaires urgentes en faveur de ces nécessiteux. Le récit de Marc Marofimbo.
Nos sources sur place renseignent que la plupart de ces retournés sont entassés dans la vallée de Nobili, près du pont Lamia qui donne accès à l'Ouganda voisin, et d'autres sont à Lwanoli. La plupart d'entre eux passent nuit à la Belle Étoile, ajoutent les mêmes sources. L'organisation non gouvernementale Action pour la défense des droits de l'homme, ADDH, rapporte que des cas de décès ont été enregistrés parmi eux, notamment des enfants à la suite des mauvaises conditions de vie. Certaines organisations partenaires du Haut Commissariat pour les réfugiés procèdent déjà à l'identification de ces retournés en leur distribuant des bâches, des abris d'urgence. Cependant, les besoins sont encore énormes, indique David Mouazé, coordonnateur de l'ADDH. Les organisations de la société civile et celles de défense des droits de l'homme en chefferie de Ouattalinga attirent l'attention du gouvernement et des organisations humanitaires face à cette situation. Signalons, ces nombreuses familles s'étaient réfugiées en Ouganda à la suite de nombreuses attaques des ADF dans leur village. À leur retour, ils ont retrouvé la quasi-totalité de leurs habitations incendiées et des champs détruits. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Entre-temps, en Ituri, 4 présumés Mai Mai du groupe Kiandenga ont été neutralisés, un autre capturé par les FARDC. C'était au cours des opérations militaires hier pour traquer ces miliciens et les rebelles des ADF qui s'affrontaient vers la localité d'Otmaber, en chefferie de Walesevankutu, territoire du Rumu. Selon la société civile locale, de nombreux habitants ont fui et le trafic a été perturbé pendant quelques heures sur la route nationale numéro 4. Ézéchiel Mouzalia.
C'est depuis la matinée du dimanche que les combats ont été signalés entre les miliciens Mai Mai Diandenga et les rebelles des ADF dans la forêt à l'ouest du centre d'Otomaber, dans la chefferie de Walesevankutu. Les affrontements ont duré presque toute la journée entre les deux groupes rebelles, précisent des sources concordantes. Alertés, les FARDC se sont déployés dans la zone pour traquer ces hommes armés. La société civile locale indique que 4 miliciens Mai Mai ont été neutralisés et une arme AK-47 récupérée pendant les combats. Un autre a été capturé. Ces affrontements ont entraîné le déplacement de la population qui a afflué dans les localités où se trouvent les positions des FARDC. Le trafic a été momentanément interrompu sur la RN4. Cette intervention de l'armée est saluée par l'Organisation de défense des droits de l'homme, CRDH, qui encourage les forces loyalistes à poursuivre la traque de ces deux groupes rebelles. Cette ONG demande également à la population de redoubler de vigilance et de renforcer la collaboration avec l'armée pour la pacification de la région. Bounia est Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Dans la province de Lomami, on signale un mort, un policier blessé par balle, une vingtaine de maisons incendiées et des villages abandonnés par leurs habitants. C'est le bilan des affrontements qui ont opposé dans la nuit de samedi à hier dimanche les habitants des groupements de Kaseki et Mpianamukala. Selon l'administrateur de territoire assistant chargé de l'administration, la dispute autour d'un champ entre deux habitants de ces deux groupements voisins s'est soldée en une bagarre qui a dégénéré. La même source précise qu'une zone tampon a été établie pour empêcher à tous les protagonistes d'accéder à la partie querellée. Je vous le disais en titre, situation des ressortissants de la RDC en Ukraine. L'ambassadrice de la RDC en Pologne va poursuivre les démarches ensemble avec certains Congolais qui, à leur manière, avaient déjà commencé à aider les compatriotes venus d'Ukraine. Cette précision est du directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales, solidarité et action humanitaire qui est en mission sur place en Pologne. Hubert Tetika a aussi indiqué ce lundi que la finalité de cette démarche est pour le gouvernement congolais de pouvoir soulager les parents en accordant si possible des bourses d'études à ses étudiants. On écoute Hubert Tetika dans cet extrait proposé par Alain Hirongo-Mushinji.
Notre ambassadrice, Madame Chakembo, et les personnels de l'ambassade sont vraiment dévoués à cette tâche. Donc, ils sont là, nous faisons le travail ensemble, et ils vont rester, clairement, suivre les dossiers de près, et en collaboration avec le collectif d'avocats, et nos deux personnes ressources des Congolais, enfin, que nous avions découvertes, parce que eux, ces Congolais-là, ont, d'entrée des jeux, commencé à aider le compatriote avant même que nous, l'État, nous puissions intervenir. Il s'agit d'un monsieur Yuga Boissa Hugues, et un monsieur Raphaël Moulenda. Nos deux compatriotes là seront là toujours. D'ailleurs, ils nous servent d'interface entre les étudiants et l'ambassade. Après 3 mois, certainement, le gouvernement ne va pas laisser les enfants vivoter, donc ils seront pris en charge en attendant toujours qu'ils puissent avoir des papiers, en attendant aussi qu'on puisse en tout cas un jour mettre en place un mécanisme d'octroi des bourses, car bon, ces étudiants volontaires, on ne peut pas les laisser dans la nature. Ces enfants ont été envoyés par leurs parents. C'était les parents qui supportaient. Mais je pense qu'à un moment, il faille soulager un peu ses parents en voyant comment octroyer des bourses. Donc, il y aura des efforts concomitants qui seront menés de part et d'autre, de la part de l'État et de la part des parents.
Et bien évidemment, l'implication du gouvernement congolais pour voler au secours des compatriotes venus de l'Ukraine et s'y trouvant en Pologne réjouit plusieurs étudiants concernés. Ces derniers disent être reconnaissants. On écoute l'une des concernées, cette étudiante qui s'exprime en swahili, propos traduit par Alain Rongmoshinj.
Je viens de l'Ukraine. Nous avons beaucoup souffert là-bas. Nous sommes reconnaissants car notre président nous a envoyé une délégation qui est venue ici en Pologne. Cette délégation est en train de mener des démarches pour nous permettre d'étudier dans les universités polonaises. Ici en Pologne, nous disons également merci pour le soutien que le gouvernement nous a octroyé en termes de logement, transport, restauration et même ils vont nous donner des bourses. Cela nous réjouit énormément et nous disons merci.
Merci beaucoup au gouvernement et merci beaucoup.
Revenons au pays. État des lieux de l'enseignement primaire, secondaire et technique au Grand Équateur. C'était hier à l'ISP Mbandaka, à l'initiative du ministre de l'EPST Tony Mwaba. C'était principalement autour de l'effectivité et de la gratuité de l'enseignement primaire prôné par le chef de l'État. Le ministre qui est en mission d'itinérance dans les 10 provinces éducationnelles de l'Équateur a aussi institué une commission ad hoc chargée d'examiner en profondeur les différents problèmes soulevés et d'en proposer des solutions idoines. Le point avec Paul-Richard Malengue.
Tous les acteurs centraux et provinciaux étaient à ce rendez-vous organisé par le professeur Tony Mwaba, ministre de l'EPST, mais aussi des députés nationaux du Grand Équateur. Ils ont déballé à cœur ouvert les faiblesses et les points forts de la gratuité telle qu'appliquée dans les 10 provinces éducationnelles qui comptent la région. Tous ont reconnu l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire. Cependant, les effets induits se sont plutôt érigés en défis à relever le plus vite pour sa pérennisation. Parmi les défis énormes, il y a l'insuffisance d'infrastructures scolaires et le non-paiement des nouvelles unités estimées à la moitié des personnels mis en service. Il y a aussi la politisation du secteur, le monnayage des services par les agents du SECOPE et de l'inspection, l'impunité, autant d'autres antivaleurs ont été décriées par les intervenants. En réaction, le ministre a recommandé la rigueur, la moralité et l'excellence à tous les acteurs et partenaires, lesquels doivent tourner le dos aux antivaleurs en vue du succès de la gratuité et du relèvement de la qualité de l'enseignement national. Il a aussi rassuré de la mécanisation de 74 000 nouvelles unités au mois d'avril prochain, ainsi que de la construction et équipement progressif des écoles en banc. Ce, en attendant les propositions de la commission ad hoc qu'il a instituée et qui doit dans 10 jours lui proposer des solutions idoines. Mbondaka, Pocha Malengue, la Radio Okapi.
Retour au Nord Kivu. L'initiative de la conférence internationale sur les volcans de Virunga à Goma montre un signal politique fort qui traduit l'intérêt des autorités de l'État pour une thématique qui touche directement la population de cette partie du pays. Cette déclaration est de Dr. François Kervin du département des sciences de la Terre et chef du service risques naturels et cartographie au Musée royal de l'Afrique centrale en Belgique. Il avoue collaborer avec l'Observatoire volcanologique de Goma depuis 15 ans. Il a dit au de Mathieu Ilunga.
Je salue l'initiative parce que cela montre un signal politique fort qui traduit l'intérêt des plus hautes autorités de l'État pour une thématique qui touche directement la population de Goma et des environs. C'est une manière de faire le point sur ce qui se fait dans d'autres observatoires, notamment on a parlé de la Piton de la Fournaise à La Réunion, que des experts internationaux viennent un petit peu témoigner de ce qui se fait ailleurs pour donner ici la mesure de ce qui est envisageable, de ce qu'on pourrait imaginer faire à l'avenir. On a entendu d'autres voix, la voix de la protection civile, la voix de la société civile, et je pense que c'est important, c'est intéressant pour les volcanologues. Et c'est une manière de faire un bilan sur ce qui a bien marché, sur ce qui a moins bien marché, et donner des pistes de réflexion pour l'avenir. Alors les données ne passent pas par la Belgique, les données passent par le Luxembourg. Depuis la station de mesure sur le terrain ici à Goma, via Luxembourg et retour à Goma, la durée de ce trajet, c'est de quelques secondes. C'est cette question de la trajectoire qui traduit une complexité des obstacles techniques. Pour que ce soit installé ici, si vous voulez, il faut rencontrer des contraintes techniques, mais également disposer de la stabilité d'un courant électrique permanent, d'une connexion Internet permanente, et en accord avec les autorités de l'observatoire, qui peut évoluer vers une autre solution à l'avenir dès que ces obstacles seront résolus.
Direction le Congo central. Bientôt, tous les médecins, pharmaciens et infirmiers non inscrits au tableau de l'ordre de ces différentes filières cesseront de prester dans les structures médicales. Docteur Sabin Ilunga, médecin inspecteur provincial du Congo central, qui a fait cette annonce, dit attendre les instructions de Kinshasa pour écarter les concernés. L'objectif, selon lui, est de mettre les malades à l'abri des charlatans qui pratiquent sous la casquette des personnels soignants. Le docteur Sabin Ilunga explique la situation au micro de Nana Pluriche Mambo.
On ne peut pas utiliser un médecin qui n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des médecins. On ne peut pas utiliser un pharmacien qui n'est pas inscrit à l'ordre des pharmaciens. Et puis, l'ordre des infirmiers a été créé récemment. Mais déjà, incessamment, il y aura une interdiction sur l'utilisation du personnel infirmier qui n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. Quand nous attendons l'instruction qui viendra du niveau central de Kinshasa. En temps, ils sont en train de travailler, mais ils doivent se préparer conséquemment en s'inscrivant à l'ordre des infirmiers. Donc ça nous permet d'abord d'utiliser un personnel qui est reconnu. Donc on ne peut pas utiliser les charlatans, n'importe qui peut se proclamer infirmier alors qu'il n'en a pas la qualité. Apparemment, les gens semblent dire qu'ils ont des difficultés en rapport avec les diplômes. On a facilité la chose, ils peuvent s'affilier avec une attestation qui est délivrée par la 6e direction à Kinshasa.
Expo Dubaï 2020, arrivé hier à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a visité le soir le pavillon de la République démocratique du Congo. L'objectif de cette visite était de se rassurer du bon fonctionnement du pavillon de la RDC à ce grand rendez-vous mondial des opportunités d'affaires. D'autres détails avec vous, Alain Rungmushinji.
Il s'est agi également de mettre au point l'organisation du Forum des affaires RDC Émirats Arabes Unis qui se tiendra ce lundi à la Chambre de commerce de Dubaï où la RDC est représentée par 9 membres du gouvernement et 50 hommes et femmes d'affaires. La Chambre de commerce et d'industrie de Dubaï, l'hôte de l'événement, se dit déterminée à accompagner la RDC dans la mise en œuvre de son plan directeur d'industrialisation autour duquel des sessions B2B seront organisées avec plus de 100 investisseurs émiratis intéressés par la RDC. Il était aussi question de faire le suivi des préparatifs de la nuit de la RDC à Dubaï, prévue pour ce mardi, a déclaré le ministre de l'Industrie à l'issue de cette descente, tout en insistant sur la consolidation de la diplomatie économique qui va permettre à la RDC de saisir l'ensemble des opportunités que lui offrent les eaux. Signalons qu'au cours de cette visite, le commissaire de la RDC à cette expo a donné les différentes explications du déroulement des activités au stand et en dehors de l'expo.
Actualité internationale. Burkina Faso, au moins 10 soldats tués hier suite à une attaque dans l'est du pays. Ils sont tombés dans une embuscade au cours d'une opération sur l'axe Pama-Fada-Ngourma. L'attaque a eu lieu à 45 km de Fada alors que les forces armées tentaient de rouvrir la route qui avait été bloquée par des hommes armés depuis plusieurs semaines. Au 26e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie ce lundi, l'armée russe continue son avancée mais se heurte dans le sud du pays à une grande résistance. Les troupes russes tentent toujours d'encercler Kiev, la capitale ukrainienne, où un bombardement a fait au moins 8 morts dans la nuit de dimanche à ce lundi.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Sheila Romaine, coordonnatrice au Kassai du bureau de terrain du coordonnateur humanitaire en RDC. Elle évalue le Nexus, cette approche qui a été mise en place dans la région du Kassai après le départ de la MONUSCO l'année dernière. Nexus prend en compte l'humanitaire, le développement et la paix, avec comme priorité entre autres la réduction de l'insécurité alimentaire et la malnutrition, ainsi que l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base. Sheila Romaine s'entretient à ce sujet avec François Kadima.
Sheila Romaine, bonjour.
Bonjour.
L'approche Nexus a été envisagée suite à l'amélioration de la situation sécuritaire après les élections et le départ de la MONUSCO. Alors, quelle évaluation faites-vous de l'approche Nexus à ces jours dans la région du Kassai?
Effectivement, le Nexus en est en plein mise en opérationnalisation en ces jours. Comme vous venez de le dire, en principe, l'approche Nexus a été décidé pour la RDC dans l'année 2019 et ça a été suivi par plusieurs ateliers sur le niveau national avant qu'on a décidé de prioriser 3 provinces en RDC pour l'opérationnalisation justement du Nexus, et parmi ces provinces c'est le Kassai central et le Kassai. Donc ça c'est la raison pour laquelle effectivement je suis venue ici pour appuyer cet exercice. On est vraiment au plein milieu de la mise en œuvre. On a déjà tenu un grand atelier pour initier le processus l'année passée, en avril. Ça s'est tenu ici à Kananga avec la grande participation de différents participants qui sont venus de tous les côtés du pays et surtout de Kinshasa. Et après, on a commencé de concrétiser l'approche Nexus ici au Kassai central. On a commencé avec la première réunion, c'est ce qu'on appelle le NGP, le Nexus Group Provincial, qui est présidé par le gouverneur de la province. Et jusqu'à ce moment, on a eu 3 réunions de haut niveau. Donc voilà, je peux vraiment dire qu'on n'a pas tardé de le mettre en œuvre. Le Nexus, c'est une approche qui demande la participation de plusieurs acteurs. C'est beaucoup de coordination qu'on fait ensemble, et donc je pense qu'on est vraiment sur un très bon point actuellement.
Voilà, prenons donc les 3 aspects de Nexus: l'humanitaire, la paix, le développement. Qu'est-ce qui a déjà été fait dans la région?
Voilà, c'est très bien que vous mentionnez les 3 aspects clés du Nexus, parce que on s'y réfère aussi très souvent, triple Nexus. Donc voilà les 3 aspects que vous venez de mentionner. Au fait, parfois des difficultés de vraiment comprendre c'est quoi le Nexus, parce que le Nexus n'est pas un projet, c'est pas un programme et c'est pas un fonds non plus, c'est pas une façon de financer, mais c'est plutôt une nouvelle façon d'approcher les choses, une nouvelle façon de coordonner, de mieux coordonner tous ensemble. Et le but au fait du Nexus, c'est que il fallait, c'est une reconnaissance universelle qu'il faut diminuer les aides humanitaires pour ensemble avancer dans le développement en prenant en considération cause profonde des conflits, c'est-à-dire la paix. Je pense en ça, on voit maintenant de la part des Nations Unies, par exemple, les agences qui sont bien fonctionnelles sur le niveau et de Kassai et du Kassai central. Donc ça, c'est déjà un bon indicateur.
Qui sont réellement les acteurs des mises en œuvre du Nexus?
Au fait, il y a 5 acteurs clés. C'est le gouvernement. Après, il y a les Nations Unies, il y a les ONGI, les grandes organisations non gouvernementales internationales, il y a la société civile, très important, locale, parce qu'au fait, le Nexus peut jamais fonctionner si c'est pas aussi approprié par les acteurs qui sont à côté, qui accompagnent les bénéficiaires dans les territoires. Dernier acteur très important sont les bailleurs.
Qu'est-ce qui reste à faire pour booster l'approche Nexus?
En principe, je pense qu'on n'est qu'au début. Il faut vraiment nous assurer que toute cette coordination, tout ce travail qu'on a maintenant porté à Kananga va aussi descendre jusqu'au niveau des territoires. Donc, c'est-à-dire, maintenant, ça, ce qu'il nous faut, c'est de concrétiser, faire des descentes aussi sur le terrain, mais aussi de ici nous asseoir autour de cette table que je viens de dire pour comprendre quelle intervention existe déjà. Qu'est-ce qui a été fait déjà ici dans la province pour comprendre quels sont encore les besoins qui restent à être couverts.
Sheila Romaine, nous vous disons merci.
Merci beaucoup.
Voilà notre invitée, la coordonnatrice au Kassai du bureau de terrain du coordonnateur humanitaire en RDC, répondait aux questions de François Kadima. Ainsi prend fin ce journal supervisé par Alain Rungmouchinj, coordination de Élisée Chikota Chivueta. Jean-Claude Siala Mwana Makengo Swalou était à la mise en onde et Belinda Bosuma vous la présentez avec plaisir. Je vous retrouve très bientôt. Merci de votre fidélité à la fréquence de la paix.